Bonjour, c'est Amandine pour Radiola. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ours, car nous sommes bientôt le 1er février, et la nuit du 1er au 2 février à Dieulefit s'appelle la nuit des ours. D'ailleurs, si on écoute les dictons des anciens, il n'y a pas qu'à Dieulefit que l'ours apparaît au début du mois de février. À la Candeluso, l'ours fait tresso, foro de centrao. Ses nivo, sen vai. Se fai suleu, intromai. À la chandeleur, l'ours fait trois sauts hors de son trou. Si c'est couvert, il s'en va. S'il fait clair, il rentre dans sa tanière. Profitons donc de la sortie prochaine de l'ours pour découvrir une histoire. L'histoire de Jean de l'ours. Cette histoire nous vient des Pyrénées et d'Occitanie et se déguste de préférence accompagnée de bonnes crêpes au miel. Ouvrez bien vos oreilles velues, ça commence. Jean de l'ours. Il y a un siècle ou deux de cela, une jeune femme parcourait chaque jour les collines d'ici à la recherche de quelques herbes ou baies à vendre sur le marché. Elle était pauvre, mais elle aimait partir le matin à l'aube et rentrer au coucher du soleil, son drap tendu et parfumé des plantes récoltées au fil des saisons. Hysope des plaines, thym citronné de vente, châtaigne de rachat, lavande fine de la lance. Un des tout premiers jours de février, alors qu'elle cueillait les premières violettes dans les forêts de Saint-Maurice, enivrée par leur parfum qui annonçait l'arrivée prochaine du printemps, un ours surgit d'un taillis et se dressa devant elle. Elle s'évanouit de peur. Et lorsqu'elle reprit connaissance, elle se trouvait dans la caverne de l'animal, dont l'entrée était fermée par un rocher de plusieurs tonnes. Elle était terrorisée, car elle pensait que l'ours allait la dévorer à son retour. Mais l'ours ne lui fit jamais aucun mal, bien au contraire. Il lui apporta des vivres et de l'eau chaque jour, et chaque nuit, l'enveloppa dans la chaleur de ses puissantes pattes. Les jours et les semaines passèrent, le printemps et l'été s'écoulèrent, et au début de l'automne, la jeune femme mit au monde un garçonnet couvert de poils roux. Elle l'appela Jean. L'enfant était robuste et grandissait à vue d'œil. Chaque mois écoulé semblait pour lui une année, tant sa taille et ses forces augmentaient. Le 21 juin suivant, alors que l'ours s'était absenté et que Jean s'amusait à déloger et poursuivre des chauves-souris, un ruban doré et brillant sur le sol sombre de la caverne attira son regard. Il s'approcha pour le renifler. Un parfum chaud et sucré pénétra ses narines et se répandit dans tout son corps, comme si dans ses veines s'écoulait soudain le plus suave des miels. Il tenta de saisir le ruban, mais il n'y parvint pas. Sa mère s'approcha et lui expliqua que c'était un rayon de soleil pénétrant par une fente au-dessus du rocher. Elle lui parla alors pour la première fois de sa vie d'avant. Des arbres et des fleurs qui s'épanouissaient en cette saison à l'extérieur de la grotte. Des torrents glacés, du chant affolé des oiseaux, du bourdonnement des insectes, de la lumière qui baignait les longs jours et réchauffait la terre, l'écorce comme la peau. Jean se dressa d'un bond, plaqua son épaule sur la pierre qui fermait l'entrée de la grotte et poussa de toutes ses forces. D'abord, elle ne bougea pas, puis s'ébranla soudain et roula au loin. Il saisit sa mère par la main et ils s'élancèrent au dehors. Ils roulèrent dans l'herbe tendre, s'enivrèrent de l'odeur des pins sylvestres, se désaltérèrent et s'éclaboussèrent aux sources fraîches. Lorsque le jour se mit à décliner, la jeune femme entraîna son fils dans la combe pour retrouver le chemin du village où elle était née. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du bourg, ils entendirent un long hurlement rauque qui venait de la montagne et résonna longtemps dans leur poitrine. Ils retrouvèrent la maison désertée et s'y barricadèrent de peur que l'ours ne vienne les chercher jusqu'ici. La jeune femme se fit lavandière, car elle ne pouvait plus retourner dans la montagne et risquer de se confronter au chagrin de l'ours. Elle inscrivit Jean à l'école communale, mais il était bien trop poilu et bien trop fort. Aussi, les autres enfants le fuyaient, car il les terrorisait avec ses grognements qui lui servaient de rire et ses griffes qui les blessaient lorsqu'il voulait jouer avec eux. Le forgeron le prit alors en apprentissage, car il n'avait pas de fils pour prendre sa suite et que la force de Jean servirait bien son ouvrage. Jean travailla avec entrain, mais sa puissance était telle qu'à chaque coup de marteau sur l'enclume, les murs de l'atelier et des maisons attenantes tremblaient et se fissuraient. Le brave forgeron se résigna à lui demander de partir pour ne pas que le village entier finisse par s'écrouler. Avant son départ, Jean demanda la permission de se confectionner une canne en acier. Le forgeron accepta, mais dut lui céder tout son fer et perdit une enclume qui éclata sous les coups répétés de son apprenti. Jean décida de quitter le village et de partir sur les routes. Il fit ses adieux à sa mère et commença à parcourir la campagne alentour. Après quelques jours de marche, il rencontra un robuste bûcheron qui déracinait les arbres d'une seule main et les rassemblait en fagots. « Bonjour, je me nomme Jean de l'Ours, car mon père est un ours. Et toi, comment t'appelles-tu ? Je suis Brise-Chêne, et aucun arbre, aucune porte sur cette terre ne peut me résister. Tu es bien plus grand que moi. Veux-tu m'accompagner et parcourir le monde ? Le bûcheron accepta et ils reprirent la route ensemble. Peu de temps après, ils rencontrèrent un berger qui comptait allongé sous un tilleul. « Bonjour, je me nomme Jean de l'Ours car mon père est un ours et voici Brise-Chêne. Comment t'appelles-tu ?
Je suis tête pleine et je connais le nombre et le nom de toutes les étoiles, de toutes les plantes, de tous les insectes et de nombreuses autres choses encore sur cette terre.
Tu es bien plus savant que moi. Veux-tu m'accompagner et parcourir le monde ? Le berger accepta et ils reprirent la route ensemble. Quelques lieues plus loin, ils virent accourir un voleur poursuivi par des paysans qui brandissaient des fourches. L'homme se jeta aux pieds des trois compères et s'écria en les désignant l'un après l'autre.
« Me voilà perdu, voici le juge qui prononcera ma sentence, le garde qui me mènera la potence et le bourreau qui me brisera les os avec sa barre de fer. »
À ces mots, les paysans cessèrent leur poursuite et leurs cris et rebroussèrent chemin, laissant le voleur aux mains de Jean de l'Ours et de ses compagnons.
« Merci pour votre aide, camarade !» dit le voleur.
« Bonjour !» Je me nomme Jean de l'Ours, car mon père est un ours. Et voici Brise-Chêne et tête pleine. Comment t'appelles-tu ?
Je suis Tirelaine, et il n'existe sur cette terre nul trésor, nul secret que je ne puisse dérober.
Tu es bien plus rusé que moi. Veux-tu m'accompagner et parcourir le monde ? Le voleur accepta, et ils reprirent la route ensemble.
Après plusieurs jours de marche, les quatre compagnons découvrirent au soir, au fond d'un vallon, un château. Ils étaient fatigués et l'envie de dormir au chaud et de s'attabler pour un bon repas les poussa jusqu'aux portes. Lorsqu'ils pénétrèrent dans la grande salle, seul le silence et le froid les accueillirent. Le château était désert. En traversant les pièces vides, ils furent saisis d'une grande tristesse qui semblait perler des murs et s'écouler en une longue plainte silencieuse qui leur serrait le cœur.
Brise Chêne alla déraciner un arbre mort et alluma un grand feu dans la cheminée. Tête Pleine prépara une soupe avec des herbes sauvages qu'il avait ramassées. Tirlaine dénicha un tonneau de vin dans une cave et nos quatre compères engloutirent avec appétit la biche tendre que Jean de l'Ours venait de débusquer aux alentours du château. Puis, rassasiés, ils s'assoupirent près de l'âtre. Au cœur de la nuit, Brise Chêne fut réveillée par une main glacée posée sur son épaule et une voix de femme aiguë et rouillée lui grinça dans l'oreille.
« J'ai froid, si froid, réchauffe-moi !»
Effrayée, Brise Chêne se leva en criant, réveillant ses compères, mais ne voyant personne dans la pièce, il crut à un cauchemar. Et tous se rendormirent. Quelques instants plus tard, Tête Pleine sentit sur sa nuque un souffle gelé et une voix perçante crissée.
« J'ai froid, si froid, réchauffe-moi !»
Tête Pleine bondit en hurlant, mais cette fois encore, aucun d'entre eux ne vit de femme dans la salle et ils durent se rendormir. Lorsqu'un peu plus tard, Tirlaine sentit dans son oreille la voix perçante qui murmurait
« J'ai froid, si froid, réchauffe-moi !»
Son sang se figea et il ne put plus faire un seul mouvement. C'est alors que Jean de l'Ours se dressa et d'un coup de sa puissante canne envoya rouler la vieille femme dans la cheminée. Ils eurent à peine le temps de voir ricaner sa face ride et noire comme une truffe que la sorcière s'enfonça dans les flammes et disparut. Au matin, Jean balaya les cendres de la cheminée et découvrit au-dessous une dalle au centre de laquelle se trouvait un anneau. Il passa sa canne dans l'anneau et, avec l'aide de Brise Chêne, ils soulevèrent la lourde pierre. Elle fermait un puits obscur et si profond qu'on ne pouvait en discerner le fond. Les quatre hommes rassemblèrent les cordes pour descendre voir ce qui se trouvait sous leurs pieds, mais aucun des trois compagnons de Jean ne désira passer le premier. Jean de l'Ours prit alors sa canne entre ses jambes, s'engouffra dans le long boyau sombre en se retenant à la corde et se mit à descendre. Il disparut rapidement. Les trois compères restés sur le bord n'entendirent bientôt plus aucun bruit. Ils eurent beau appeler Jean, rien ni personne ne leur répondit. Ils renoncèrent alors à le suivre et décidèrent d'attendre dans le château. Jean ne sut jamais combien de temps il descendit ainsi dans cette obscurité si épaisse qu'il n'entendait même plus sa propre respiration. Lorsque ses pieds touchèrent enfin le fond, il se trouvait dans une vaste caverne dans laquelle se dressait la réplique exacte du château au-dessus de lui. La sorcière gardait la porte. « Ôte-toi de ma route, maudite sorcière, ou tu goûteras encore de ma canne !» grogna Jean. La vieille poussa un cri strident qui ricocha sur les parois de la caverne en un vacarme assourdissant et disparut. Se tenant la tête qui résonnait encore du hurlement de la sorcière, Jean poussa la porte et se trouva dans la grande salle. Elle était pleine de coffres débordant d'or et de pierres précieuses. Assise à une table, une jeune femme pleurait en silence. Elle était très belle, aussi belle que l'herbe tendre, que les arbres en fleurs, que les sources fraîches, que les rayons du soleil dans le chant des oiseaux et le bourdonnement des insectes. Jean s'approcha d'elle, mais elle eut peur et s'évanouit. Il la prit dans ses bras, chargea sur son dos deux coffres et retourna au puits pour attacher la jeune fille et le trésor à la corde. Elle reprit connaissance et se mit à parler en faisant de grands gestes désespérés. Mais Jean, rendu sourd par le cri maléfique de la sorcière, ne put comprendre ce qu'elle disait. Il tira plusieurs fois sur la corde pour que ses compagnons la fassent remonter. Il sentit alors un souffle brûlant dans son dos. Il se retourna
et se trouva nez à nez avec un animal monstrueux, au corps visqueux et couvert d'écailles, aux pattes puissantes munies de serres gigantesques et pourvues de trois têtes aux yeux incandescents. Le dragon ouvrit ses trois larges gueules qui feulèrent et crachèrent des flammes. Jean fit tournoyer sa canne dans les airs et asséna un coup si violent sur chacune des têtes que les trois crânes se brisèrent comme des coquilles de noix. Lorsqu'il retourna au puits, il vit que la corde était bien montée avec la jeune fille et le trésor, mais n'avait pas été renvoyée par ses compagnons. Il était abandonné ici, à mille lieues sous terre. Il se mit à chercher une autre issue et, en fouillant la caverne, il découvrit la sorcière cachée dans un recoin. Il la saisit par le col et gronda. « Je te laisse la vie sauve si tu m'aides à sortir d'ici. »
« Prends des réserves de viande et monte sur mon dos !»
répondit la sorcière qui s'étira, se déforma et se métamorphosa en un immense oiseau aux plumes noires comme la nuit, au bec crochu et acéré. Jean monta sur l'oiseau et chargea la carcasse du dragon à trois têtes. L'oiseau s'envola et commença l'ascension du puits. Régulièrement pendant la montée, l'oiseau lançait à Jean dans un croassement.
Carne, carne.
Et Jean découpait aussitôt un morceau de viande et lui donnait. Mais le puits était si profond et l'oiseau si vorace que le cadavre du dragon disparaissait à vue d'œil et bientôt il ne resta plus rien à manger. L'oiseau réclamait toujours
« Carne, carne !»
et ralentissait déjà son vol. Jean se crut perdu, mais à cet instant, il aperçut un peu de lumière au-dessus de lui et reprit courage. Il saisit son couteau et se trancha un morceau de cuisse qu'il donna à l'oiseau. Quelques instants plus tard, il était enfin sorti du puits et se trouvait dans la grande salle du château. Elle était remplie de personnes richement vêtues et de tables couvertes de mets délicieux. Il demanda à une servante ce qu'il se passait ici. Et celle-ci lui révéla que le roi célébrait les noces de sa fille, la princesse, et de celui qui l'avait délivrée du monstre qui la retenait prisonnière. Jean aperçut alors Tirelaine assis aux côtés de la princesse et Brise-Chaîne et Tête-Pleine chargés des deux coffres. Il comprit que ses compagnons l'avaient trahi et entra dans une terrible colère. Il se rua sur Tirelaine et lui porta un tel coup sur la tête avec sa canne que celui-ci s'enfonça dans le sol et disparut. Les deux autres compères eurent juste le temps de prendre leurs jambes à leur cou et de déguerpir. On ne les revit plus. Le mariage put reprendre son cours, mais c'est Jean qui épousa la princesse. Ils vécurent heureux et eurent de belles petites filles robustes et poilues comme leur père, et de beaux petits garçons, gracieux et doux comme leur mère. Ou bien est-ce le contraire? Je ne me souviens plus. Mais cela ne fait rien, car l'histoire de Jean de l'Ours est terminée. C'était l'histoire de Jean de l'Ours pour Radiola, contée par Amandine Roussin sur la musique de Danse sur le piano. Et à présent, pour se dégourdir les pattes après le conte et se préparer pour le bal de l'ours qui approche, écoutons la Danse de l'ours, interprétée par le groupe Locomotive Express. Thank you.
c'est ça, lève la patte si tu veux aller de l'avant. Hey, rodon, 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 la lève la haute encore une fois.
Ouais, c'est ça, lève la patte si tu veux aller de l'avant. Rodon, 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 la lève la haute encore une fois.
C'est la danse de l'ours, écoute son cœur bat. Ta ding 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 ding
ding.
C'est ça, lève la truffe si tu veux aller de l'avant. Rodon, 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 la lève la truffe encore une fois.
Ouais, c'est ça, lève la truffe si tu veux aller de l'avant. Rodon, 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 la lève la truffe encore une fois.
C'est là, c'est la danse de l'ours, écoute son cœur battre.